Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre émission, dans notre Midi Magazine, on va essayer de comprendre ce qui se passe en Suisse. Au plan économique, au plan social, la Suisse est-elle un modèle? C'est notre question, on va essayer d'y répondre. En quoi est-elle un modèle? Si elle en est un, on aura la réponse dans quelques instants. Et peut-on s'en inspirer sur un certain nombre de points? Et pour en parler avec nous, j'allais dire savamment et aussi de façon vivante, Philippe Alliaume, rédacteur en chef de Swiss Magazine, pas Swiss Magazine, effectivement, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a un mystère dans un de vos éditoriaux, vous évoquiez la forteresse suisse, d'autres évoquent l'île suisse, l'île du bonheur, je ne sais pas, et je suis allé regarder pour préparer l'émission, je vais vous proposer quelques chiffres. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au moment où toute la zone euro, alors vous n'êtes pas dans la zone euro, je sais bien, est en récession, eh bien la Suisse, elle est autour de 1,3, on évoque peut-être 1,4 à la fin de l'année, et puis, tenez-vous bien, l'année prochaine, on parle d'un taux de croissance qui dépasserait les 2%. Alors, ça, c'est assez extraordinaire. Puis un deuxième chiffre, alors bon, c'est un peu peut-être pour sourire, les chômeurs en fin de droit en Suisse, en ce moment, ils sont 2 800, si j'ai bien compris, en fin de droit. Voilà, alors, c'est quoi, finalement, la raison de ce relatif succès, parce que la Suisse a connu certainement des taux de croissance plus élevés il y a quelques années.
Relatif succès, oui, la Suisse n'a pas toujours été un pays riche, ça a été un pays dont les nationaux s'exportaient, notamment en France, pour trouver du travail. La Suisse est un pays sans matières premières, et à la fin du 19e siècle, sans matières premières, ça voulait dire un pays pauvre, donc il a fallu agir et réagir là-dessus.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, alors, vous rentrez dans le vif du sujet, pas de matières premières, les économistes parlent d'une malédiction de la ressource ou des ressources, c'est-à-dire que, dans le fond, lorsqu'on a des matières premières, quelquefois, on s'endort un peu sur ses lauriers, comme on dit, alors que là, vous avez dû trouver... La Suisse a dû trouver les moyens d'être une économie performante sans matières premières. Voilà.
Elle était bien obligée, géographie. Il y a une matière première en Suisse, c'est l'eau et la qualité de son paysage. Le tourisme, ça permet de faire fonctionner le tourisme. Ouais. Mais au 19e siècle, c'était encore un peu limité. Ouais. Et il y a de l'eau, ce qui donne beaucoup d'énergie pour pas mal de métiers, l'aluminium, le bois, etc. Ouais. Tout le reste, il faut l'importer. Donc depuis très longtemps, la Suisse a pris l'habitude d'importer ce qui lui était indispensable. Ouais. Et évidemment, de le transformer et de le réexporter à un prix supérieur.
Alors la Suisse, on en parle souvent dans toutes les radios françaises. La Suisse, c'est, dès qu'on parle de Suisse, on met compte en banque, fraude fiscale, évasion fiscale. Et j'ai regardé de très près aussi un certain nombre de chiffres. Bon, finalement, le secteur de la finance, c'est très peu par rapport aux autres secteurs. Je voudrais qu'on parle de ça parce que on se trompe beaucoup, on évoque toujours, et encore ces jours derniers, et dans les heures qui vont venir certainement de nouveau un certain nombre de problèmes, avec les fameuses listes, notamment, paraît-il, de Français célèbres. Mais en réalité... Pour la Suisse, aujourd'hui, finalement, le secteur de la finance, ça fait à peu près entre 10 et 12% de la totalité des secteurs économiques. C'est pas grand-chose, finalement.
C'est énorme quand on regarde les chiffres, mais en pourcentage, effectivement, il y a quand même encore un quart de secteur secondaire, donc d'industrie en Suisse. Le secteur, l'agriculture, c'est 2%. Ouais. Et il y a trois quarts de tertiaire. Et le tertiaire, ça n'est pas uniquement les banques. Et de loin, ce sont les services, les commerces, le tourisme, la distribution. Il y a tout un tas de métiers qui sont exercés en Suisse, évidemment soutenus par l'infrastructure financière. Voilà, mais la finance n'est pas et de loin l'unique composante du PIB suisse, et encore moins de sa croissance, puisque la finance est en forte décroissance depuis quelques temps.
Oui, alors justement, il semblerait que si on regarde, alors les sondages valent ce qu'ils valent, mais il semblerait que les Suisses sont de plus en plus, assez critiques à l'égard du secteur de la finance. Il y a une espèce de, semble-t-il, dans les textes que l'on voit, encore une fois, sous votre contrôle, il semblerait que les Suisses prennent une sorte de distance à l'égard peut-être du modèle bancaire. On en parlera tout à l'heure longuement.
Alors, les Suisses fonctionnent sur un système d'autorégulation depuis longtemps. Le principe n'est pas très loin des principes de base du protestantisme. On fait et on a affaire à soi quand on n'a pas bien fait. D'accord. On n'est pas régulé par une armée de textes. Moyennant quoi, ça a donné lieu à pas mal d'abus, et depuis 30, 40 ans, on régule de plus en plus en disant convention de diligence, en disant ce qui s'appelle formulaire A à l'époque, en disant séparation entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, mais on reste sur un système où on demande au secteur économique de se réguler tout seul. Ouais. Et là, les Suisses sont assez fâchés parce qu'ils estiment que leur secteur bancaire, notamment aux États-Unis, il s'est mal régulé et il a dysfonctionné. Ouais. Et la Suisse se retrouve prise à partie, on en parlera tout à l'heure. Ouais, ouais. Il y a pas mal d'actualités aujourd'hui sur le sujet.
Ouais.
Les Suisses ne sont pas contents de l'image que ça donne à l'étranger.
Oui, alors là, j'ai des chiffres justement très intéressants. Alors, le Zemmour s'installe, c'était un dossier publié par le journal Challenge, il y a à peu près une dizaine de jours, et on voit bien que la part des Suisses portant un jugement très positif sur leur banque, elle est passée en deux ans de 41% à 29%. C'est quand même, bon alors, un sondage vaut ce que vaut un sondage, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même assez important.
C'est important, c'est un vrai mouvement, ça a donné lieu en Suisse à la fuite des clients par rapport à de grands établissements dont ouais. on estimait qu'ils n'étaient plus, ils ne s'étaient pas comportés correctement. Donc les gens partaient de ces établissements en disant non, c'est pas sérieux. Les collaborateurs partaient, les clients ouais. partaient. Oui, il y a eu une mauvaise image là-dessus et cette ouais. mauvaise image perdure. Et on n'arrive pas aujourd'hui à s'en sortir et les tentatives de loi d'urgence pour nettoyer ça ne passent pas du tout auprès du peuple.
Ça, donc là, on en parlera longuement tout à l'heure. Alors, la banque, la finance, mais alors, effectivement, il y a une chose qui est très frappante, et dans ce même dossier de ce même journal, on disait les banquiers suisses ont des problèmes, mais par contre, on oublie toujours de parler d'une chose, c'est les fameuses PME, qui sont finalement ultra dominantes dans le modèle suisse, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de PME. Alors, ma question, si vous voulez, c'est de savoir, est-ce que c'est comme les PME en France? Est-ce que ce sont des PME indépendantes, innovantes, ou bien qui sont totalement dans la sous-traitance? Parce qu'en France, il y a beaucoup de PME aussi. L'emploi, mais il y a beaucoup de PME, si j'ose dire, qui sont plus du tout indépendantes, hein, qui sont dans une sorte de sous-traitance en cascade, et qui, dans le fond, finalement, dépendent du bon vouloir et de la performance des très grandes.
C'est difficile de répondre à votre question, oui. parce qu'en fait, bon, la Suisse est évidemment plus petite, donc il faut tout voir à l'échelle aussi.
Voilà.
Elle est beaucoup plus décentralisée, donc il est beaucoup plus facile de faire vivre, enfin beaucoup plus facile, il est oui, beaucoup oui. plus possible de faire vivre une PME dans un canton. On est toujours beaucoup plus proche de son centre économique. Il n'y a pas de désert industriel ouais, ouais. et économique comme on peut connaître en France.
Ouais.
D'un autre côté, oui, bien sûr, ce sont des entreprises de sous-traitance, pas forcément de sous-traitance intégrée dans un grand groupe.
Voilà, c'est ça,
mais
c'est la
comme je disais tout à l'heure, personne en Suisse ne peut, je pense, dire qu'il va de sa matière première jusqu'à son produit fini. Mmh. Tout le monde fait de la sous-traitance parce que la Suisse oui, elle-même est un pays voilà. de transformation et de sous-traitance.
Oui, absolument. Alors, ces PME aussi, ce qui est assez intéressant, et dans votre journal, il y a plusieurs articles récemment qui sont parus, c'est que, finalement, comment dire, je ne sais pas si le mot de niche peut être employé, mais on a l'impression qu'elles sont souvent, comment dirais-je, sur des créneaux, comme on dit en économie, des créneaux économiques, assez pointus d'une certaine manière, avec un phénomène aussi peut-être de elles travaillent ensemble d'une certaine façon, pour notamment exporter, parce qu'on a oublié de le dire, la Suisse est un pays massivement exportateur. C'est un système très ouvert et qui exporte. Enfin,
la Suisse est obligée d'exporter
oui,
tout ce qu'elle importe.
Non, mais je suis d'accord.
Mais il est bon de rappeler, par exemple,
ça
que si elle est importateur net vis-à-vis de la France, elle importe 1 milliard de francs de plus ouais. que ce qu'elle exporte, ouais. mais elle est exportateur net vis-à-vis de la Chine, par exemple.
Oui.
Ce qui prouve qu'elle a trouvé effectivement des créneaux.
Mais qu'est-ce qu'elle exporte en Chine, par exemple?
Alors, dans le cas particulier de la micromécanique.
Ouais.
C'est-à-dire que il y a un certain nombre de spécialités, alors qu'on peut faire remonter de façon anecdotique à l'histoire. Le paysan de montagne, il a 5 mois par an où il est à la maison parce qu'il neige dehors.
Ouais.
Donc il fallait qu'il fasse des choses.
Ouais.
C'est un peu comme ça qu'est née l'horlogerie,
oui,
un petit peu dans les historiettes, mais un peu dans la réalité aussi.
Ouais.
L'horlogerie, c'est la micromécanique, c'est le travail de précision qui nécessite ouais. de la patience, de la qualité et aussi de la formation, puisque ce sont des métiers de plus en plus pointus.
Ouais.
Et ça fait partie d'un certain nombre de niches. La chimie est aussi une niche importante en Suisse.
Ouais.
Essentiellement dû à un très grand groupe qui s'appelait Sando et qui s'appelle maintenant Novartis, mais pas uniquement. Donc oui, il y a ces métiers qui sont dus à ce qu'on arrive à obtenir comme plus-value et aussi à la recherche.
Ouais, ça veut dire qu'ils sont très dépendants quand même, parce que vous évoquez la Chine. Aujourd'hui, tous les économistes disent que, alors bon, tout est relatif quand on compare avec la zone euro, que le taux de croissance est beaucoup plus faible et s'effondre en quelque sorte. Mais ça veut dire que la Suisse est très dépendante de ce qui va se passer aussi du côté des pays dits émergents. Parce que si la Chine, si vous êtes sur des niches par rapport à la Chine, si la Chine a des problèmes dans les 10 ans qui viennent, ça va avoir un impact certainement très important sur la Suisse. Non, enfin,
c'est pas tout à fait ce que je disais.
D'accord.
C'est un produit de niche qui se trouve aujourd'hui. Là, je pensais à des roulements, par exemple,
oui.
parce que j'avais vu ça assez récemment. C'est une entreprise, d'ailleurs, franco-suisse qui exporte là-bas. La Suisse est sur un produit de niche et il se trouve qu'elle l'exporte en Chine.
Oui.
Si le marché se déplace ailleurs, elle l'exportera
d'accord.
ailleurs.
D'accord.
N'oubliez pas que la Suisse s'est soigneusement gardée de rentrer dans des accords régionaux trop lourds. Elle n'est
oui.
pas dans l'Europe. elle peut exporter aux États-Unis ou en Chine ou en Europe. Dans tous les cas, c'est des marchés extérieurs.
Pour elle n'est dans aucun système
Elle est dans l'AELE.
Oui, voilà.
Elle est dans l'OCDE.
Voilà. Oui, mais l'AELE, c'est un système de libre-échange, purement et simplement.
C'est un système de libre-échange. C'est,
voilà, d'accord.
Elle n'a pas d'interdiction de le faire. Et elle passe actuellement des accords. On parle beaucoup des accords bilatéraux avec la France, mais elle passe des accords bilatéraux avec d'autres pays.
Ouais.
Elle n'est pas liée par ce... Ouais. Par cette appartenance européenne.
Alors, justement, sur l'Europe, il y a un point aussi très important, me semble-t-il, c'est que, bon, il y a toujours ce débat sur entrer dans l'Europe ou pas, à mon avis, qui est toujours un peu là, en filigrane, et il y a surtout ce problème, alors j'ai lu ça, vous allez me répondre, de ce qu'on appelle l'acquis communautaire, là, qui provoque pas mal de passions. Alors, il faut, d'abord, l'acquis communautaire, ça veut dire que quand on rentre dans le système européen, j'allais dire, il faut en même temps prendre, si j'ose dire, dans sa valise ou dans sa charrette, tout l'acquis communautaire tel qu'il existe depuis le début de l'Europe. Alors, il semblerait que ça provoque en Suisse pas mal de débats.
Il faut le reprendre un peu dans ouais. le contexte à la fois culturel et politique de la Suisse. En Suisse, on vote ses lois. On vote beaucoup,
ouais.
on vote souvent. Et on peut ajouter une disposition à la Constitution par initiative. Donc, 100 000 personnes signent et disent « on souhaiterait ouais. rajouter ça ». Ça passe ou pas dans la Constitution. Mmh. Et si une disposition ne plaît pas, 50 000 personnes peuvent tenter de s'y opposer en signant, en demandant un vote sur le sujet.
D'accord.
Donc on a une lourde habitude de voter ces lois. Et ça n'est pas que le Parlement qui les vote, c'est aussi le peuple.
Voilà.
En France, on a plus cette habitude depuis longtemps. Plus de la moitié du travail parlementaire consiste à traduire en droit français les directives européennes. Le Parlement s'en contente, le Parlement suisse, lui, ne s'en contente pas.
Non, mais c'est vrai.
Donc, c'est parfaitement logique que l'Europe dise « Attendez, vous êtes bien gentil, mais ça fait 40 ans que nous construisons des dispositifs législatifs, donc il faudrait le prendre dans l'ensemble, vous n'allez pas le renégocier ligne par ligne.
Oui. »
Malheureusement, en Suisse, si, on a l'intention de le renégocier ligne par ligne. Et je me souviens des grands votes de 92, de 92, quand la Suisse a voté contre son intégration à l'Union européenne,
oui.
où quelques groupes distribuait sur le marché de Berne l'acquis communautaire sous forme d'un gros annuaire en disant voilà tout ce que vous allez reprendre sans le lire.
Mais si vous voulez négocier, oui, si vous voulez négocier avec Paris, vous ne le négocierez jamais parce que
c'est pas possible.
Jusqu'il y a donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est intéressant comme question parce que il y a eu refus en 92, vous disiez à l'instant, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que finalement on sent qu'il y a toujours dans quand on vous lit ou quand on lit les journaux qui parlent de ça, il y a une pression quand même de l'Europe, c'est ça qui est assez intéressant.
Oui, mais il s'est passé des accords bilatéraux parce
ouais,
que
ouais.
La Suisse, même si c'est un nain politique, est quand même une puissance économique.
Ouais.
Donc la France et d'autres pays ont compris qu'ils avaient quand même tout intérêt à négocier des accords bilatéraux.
Ouais.
Et c'est là que la Suisse est peut-être un peu critiquable. Elle a un peu beaucoup abusé des accords bilatéraux en disant bah, « Écoutez, ça je prends, mais ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. » Et c'est fait un petit peu son
ouais.
accord européen.
Ouais.
Customisé, si on peut dire.
D'accord.
Et là, effectivement, bilatéral 1, bilatéral 2... Tant que la croissance était bonne en Europe, ça arrangeait bien tout le monde. Maintenant, on commence à nous dire, bon, dit-on, ouais. faudrait peut-être un petit peu tout reprendre. Alors, on n'a pas tout eu à l'époque, mais même si l'extrême droite suisse a largement critiqué les accords bilatéraux,
ouais.
on est obligé de reconnaître aujourd'hui qu'ils étaient globalement très favorables à la Suisse.
Ouais. Alors, justement, en vous écoutant, peut-être une première réflexion sur notre notion de modèle, je me dis, en vous écoutant, dans le fond, il n'y a peut-être pas un modèle volontariste, c'est plutôt une faculté d'adaptation perpétuelle, je dirais, au monde tel qu'il est, tel qu'il change, plutôt que de dire on a posé une fois pour toutes, comme on le penserait en France un petit peu, dans le fond, quoi, hein, on aurait posé un modèle. Non, ce modèle, il a émergé de façon peut-être un peu spontanée par adaptation perpétuelle au monde tel qu'il était, puisque c'est un monde, la Suisse est un pays très ouvert.
Donc, il y a les deux.
Il y a
les deux parce qu'on on a l'habitude de dire en Suisse qu'on est un Willenstaat, c'est-à-dire un État volonté, un État qui s'est créé par la volonté de ses nationaux. L'État suisse n'a pas été créé par un potentat extérieur qui l'aurait fabriqué. Ensuite, effectivement, c'est beaucoup de l'adaptation et la Suisse, je crois, ne se permettrait pas de penser qu'elle a un modèle. Elle s'adapte.
D'accord.
Elle s'adapte lentement,
ouais.
d'ailleurs.
Ouais.
Elle se méfie de toute adaptation urgente. Les lois urgentes, ça passe très mal.
Ouais.
On a eu encore un exemple ce matin.
Oui, on va en parler.
C'est refusé.
Ouais, ouais. Ouais,
ouais. Et elle s'adapte à ses conditions. Ça change autour d'elle. Elle change. Elle essaye. L'Europe change. Elle change. Les États-Unis changent. Elle change. Elle s'adapte et je ne crois pas qu'elle prétendrait avoir un modèle.
Ouais.
Par contre, elle prétend ne pas reprendre les modèles des autres. C'est peut-être là-dessus qu'elle se bat beaucoup.
Très bien, on va faire une première petite pause. Alors, Michel Buller, je vais dire un petit peu de qui il s'agit, parce qu'en France, on ne connaît peut-être pas très bien. C'est un chanteur suisse. Alors, bah oui, ça fait sourire parfois, parce qu'on ne connaît pas très bien. C'est un chanteur un peu contestataire. Il y a des chansons très dures, des chansons plus douces. Là, on a choisi des chansons plus sympathiques. Mais il y en a une qui va introduire notre deuxième partie. Ça s'appelle L'Oncle Albert. Et c'est un peu une sorte de nostalgie par rapport peut-être à un certain type de militantisme en Suisse. Voilà.
Il bossait à l'usine que le progrès a fermé, celle où il n'y a plus des carreaux cassés. Et tu limes et tu trimes, le beau temps faut pas rêver, celui qui t'en fera cadeau, les panés. Avec un vieux paletot pour aller au turbin, la couleur passée des petits matins. Il avait qu'un drapeau qui disait rouge sang, tout comme la douleur des innocents. Le frère de ma mère, l'oncle Albert. Les femmes s'appelaient Louise, Marthe, Elisa, Lison, ce qu'elles étaient belles avec leurs chignons. Les hommes c'étaient Gustave, Otto, Charles ou Gaston, rien que du solide, rien que d'honnête nom. Le dimanche en famille, ça s'en allait à pied, en forêt, sac au dos, gros souliers. Pour gueuler contre les chefs, cracher sur l'atelier, tu peux me croire, c'était lui le premier. Il aimait pas se taire, l'oncle Albert. Il savait les chansons qu'on chantait dans ce temps-là, ça parlait de petites gens, de soldats. Il recevait les journaux, celui du syndicat, le courrier de l'UNESCO, l'UNITA. Attention, le samedi soir, s'il traînait au café, c'était pas pour boire, mais pour régler le sort de l'Indochine ou l'avenir de la paix. Et c'était pure fatigue quand il rentrait. S'il marchait de travers, l'oncle Albert, 45 ans de chaîne, s'est tiré sans regret vers un pays de vignes et de pommiers. Il a eu droit là-bas à quelques belles années qu'on dirait qu'il avait pas volé. Puis on a ramené ici ce qui restait de lui et c'était tout léger, tout petit. Je pense bien qu'il serait content s'il savait que de temps en temps je m'en vais lui dire bonjour en passant. Au bout du cimetière, l'oncle Albert, il bossait à l'usine que le progrès a fermé, c'est d'où il n'y a plus des carreaux cassés.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors, Michel Buller, l'oncle Albert, Philippe Allium avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef de Swiss Magazine. On essaye de comprendre ce qui se passe au plan économique et social. Alors justement, en Suisse, avec l'oncle Albert, on évoquait un petit peu les luttes sociales. Il y a eu finalement, en Suisse, ça peut paraître paradoxal, un certain nombre de luttes sociales, et qui ont abouti à un modèle qui s'appelle la paix du travail, mais il a fallu un certain nombre de... Ça n'a pas été si simple que ça, contrairement à ce qu'on peut croire ici.
Ça a très mal commencé. Ça a commencé par l'armée qui tirait sur la foule, juste avant les années 20. Ouais. Et la paix du travail, qui effectivement est une des forces de ce modèle social, ouais, est quand même issue aussi d'une grande peur du communisme des années 20.
Ouais. Alors, la paix du travail, on va dire un mot là-dessus, parce que, apparemment, dans toutes les histoires de la Suisse, on dit, c'est en 1937, il y a une convention dans l'horlogerie. Alors, apparemment, il y en avait eu avant, hein, des conventions collectives, mais celle-là, elle va introduire une clause qui est que quand on l'a signée, en quelque sorte, cet accord, cette convention collective, bah pendant un certain temps, 4-5 ans, il n'y a plus de possibilité de faire grève ou de faire du lock-out du côté du patronat. C'est-à-dire, c'est une clause, en quelque sorte, qui interdit, je dirais, un combat violent hors de la convention, si j'ose dire. On doit rester dans les clous de la convention, si j'ai bien compris.
C'est ce qui est écrit, effectivement, mais c'est pas l'esprit du texte. En fait, l'esprit du texte est quelque chose d'une grande simplicité. C'est de dire, on ne fait pas la grève avant d'avoir négocié.
D'accord.
Ça paraît évident, mais en France, on le pratique assez peu.
Oui.
Ça veut dire qu'on ne fait pas la grève pour compter ses troupes le 1er jeudi de septembre. Ça veut dire qu'on ne fait pas la grève avant que le texte sorte.
Voilà.
Pour dire qu'on ne souhaiterait que le texte soit. Ouais. C'est-à-dire, on discute d'abord. Ouais. Et mine de rien, l'obligation de discuter avant de faire la grève passe sur beaucoup de grèves.
Il y a un système de médiation que j'ai vu aussi, de conciliation, qui fait qu'on est obligé de même quand on n'est pas d'accord, bah de passer par un médiateur en quelque sorte. Il y a un système de d'écluse, si j'ose dire, successives de sas qui permettent d'empêcher. Mais il y a quand même des grèves. Il y a un peu, mais il y en a quand même.
Il y en a quand même. Il y en a en ordre de grandeur, il y en a 100 fois moins qu'en France sur un périmètre comparable. Ouais. Mais oui, bien sûr, on passe par la médiation. Le consensus est une valeur très importante à quelque niveau que ce soit en Suisse, y compris dans le conseil d'administration. Ouais. C'est très pénible d'ailleurs pour les franco-suisses dont je suis, qui, en tant que Suisse, prêchent le consensus, et en France, on prêche quand même plutôt la bataille et la différence. Ouais. Donc ça provoque des schizophrénies assez importantes.
Ouais. Mais alors, il y a des gens qui protestent, alors, parce qu'on va parler des détracteurs, il y a ceux qui disent c'est formidable ce modèle, à la limite on devrait l'importer en France, ce qui serait, à mon avis, négocié avant de se battre, c'est peut-être aussi bien, c'est une bonne culture. Mais en même temps, il y a des détracteurs qui disent tout ça c'est très joli, mais ça couvre, regardez les chiffres, ça couvre à peu près la moitié des salariés, les autres, ben, ils sont couverts par rien. Finalement, je ne sais pas dans quelle situation ils sont, mais ils n'ont pas de convention collective. Alors que dans les autres pays, on est beaucoup plus couverts par les conventions collectives. Voilà,
il n'y a pas beaucoup de protection, c'est sûr. Voilà, ni protection légale, ni protection sociale. On aime à rappeler que le Code du travail suisse est 43 articles, le français c'est 800. Il y a beaucoup moins de protection, il y a beaucoup plus de paternalisme, mais... Après, il est difficile d'importer, enfin, d'abord, je pense pas qu'il y ait un vrai modèle suisse, mais il est de façon difficile de l'importer par tranche. C'est un ensemble de systèmes dans lequel, effectivement, la soupe est plutôt bonne, le niveau de vie était plutôt élevé ou est plutôt élevé, et où les gens s'en satisfont. On compte, je crois, 92% de salariés qui s'estiment satisfaits de leur situation. Ouais. C'est surtout là-dessus que ça tient, plus, je pense, que sur la paix du travail.
Alors, vous évoquiez à l'instant le niveau de vie, justement, une question qui me vient là, spontanément. Vous dites que tout le monde est satisfait, mais alors, on dit toujours en Suisse, les salaires sont beaucoup plus élevés, mais un certain nombre d'autres choses qui, elles, sont aussi beaucoup plus élevées. Alors, la question du pouvoir d'achat, vous dites que tout le monde est satisfait. Je lisais récemment dans le journal français une avocate qui écrit un livre qui est en train de sortir, ou qui va sortir, sur les exilés fiscaux, et qui dit, allez, en Suisse, c'est très bien. Mais les salaires sont beaucoup plus élevés, mais la prévoyance privée, elle est très élevée, mais les loyers, c'est très élevé. Donc les prix aussi, quoi.
Il est vrai qu'une capitale moyenne de Suisse, je parle d'une capitale cantonale, bien sûr, puisque nous n'avons pas de capitale fédérale, a les prix de Paris. C'est vrai qu'il faut payer sa protection sociale. C'est vrai qu'en Suisse, se faire rembourser ses lunettes par une mutuelle, on n'y penserait même pas.
Ah oui.
C'est vrai qu'on cotise pour sa retraite, deuxième pilier, troisième pilier, etc. sur un salaire moyen qui est un salaire médian, pardon, qui est le double voire plus d'un salaire français. Donc oui, c'est un modèle, c'est pas du tout un modèle à la suédoise, très clairement, c'est un modèle beaucoup plus libéral, avec tous ces dangers de dureté, mais avec quand même des filets de protection tout en bas du système, qui essayent de ne pas trop laisser de gens sur le carreau. Mais c'est aussi un accordéon joué avec la population, enfin les travailleurs immigrés.
C'est-à-dire ce que vous appelez accordéon.
En Suisse, quand on a un peu trop de problèmes de travail ou un peu trop de problèmes de niveau de vie, on active des clauses de sauvegarde. On a encore négocié ça avec l'Europe. Ça a été activé en début d'année. Le chômage monte trop en Suisse. On limite les permis de travail pour les étrangers. Donc ça fait aussi partie du système.
Mais ça, apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça a toujours été plus ou moins fait.
Quand on signe un accord de libre-échange, on le maintient dedans quand même.
C'est ça. Et les gens acceptent parce que c'est ça qui est assez curieux, parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, d'une certaine façon, par rapport au libre-échange. Vous dites, on le fait, d'accord, très bien, mais il faut que les autres l'acceptent. Enfin, c'est un peu curieux.
Il y a, si vous voulez, apparemment un équilibre qui se trouve. Il faut savoir que je parle pour la région frontalière, par exemple. Ouais. Le fait que la Suisse importe chaque matin et réexporte chaque soir pas mal de travailleurs, évidemment, arrange bien les travailleurs qui viennent, mais n'arrange pas forcément les régions frontalières. Dans le Genevois ou dans le Jura, on ne trouve bientôt plus d'infirmières ou de médecins en France. Ouais. Parce que ils vont travailler dur, mais pour un salaire double, à 20 km de là. Ouais. Donc ça pose aussi des problèmes, et finalement, quand on active les clauses, parfois les territoires d'en face disent peut-être récupérer un petit peu de notre population formée. On n'est pas là non plus pour former les futurs travailleurs en Suisse.
Oui, alors ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a aussi le problème du patronat, parce que le pilier, on a parlé de la paix du travail, et semble-t-il, là, on est sur un patronat qui a une importance presque politique. Le patronat a un rôle. Je parlais tout à l'heure de corporatisme. On a l'impression qu'il y a un corporatisme patronal très fort, beaucoup plus fort qu'en France, où il a un rôle dans la régulation de l'économie qui lui est presque remis d'une certaine façon avec les syndicats, mais surtout le patronat quand même. Quand on lit les textes, on a l'impression, et quand on lit un peu ce qui se passe en Suisse, qu'il a un rôle qu'on n'accepterait pas qu'il ait en France, mais qu'il l'a pignon sur rue, il ne s'en cache pas. On lui a sous-traité toute une série de régulations.
Alors il fait partie effectivement des groupes constitués, des lobbies forts, ça s'appelait avant et ça s'appelle toujours plus ou moins le Fort Ort, c'est-à-dire la direction de l'union patronale. C'est quelque chose de fort, qui a sa place politique, sa place économique,
c'est ça, voilà,
dans un pays de lobby, etc. Mais enfin, le MEDEF en France n'est pas non plus uniquement une organisation littéraire, quand même. Hein,
Oui, je crois. Non, vous avez raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, justement, vous parlez du MEDEF, il y a une actualité française qui est une actualité d'hier, où le MEDEF va faire le taux de régulation sur les salaires des patrons, et était trouvé le président de la République, il leur a dit, c'est très bien, continuez. D'ailleurs, on est un peu dans un modèle qui ressemble un peu à ce qui se passe en Suisse, d'une certaine manière. C'est peut-être un peu nouveau pour la France, d'ailleurs.
Sur les conséquences, peut-être. Sur les causes, je ne crois pas. C'est une habitude en Suisse, hein, de voter ses impôts, de voter ses taxes. N'oubliez pas qu'en Suisse, quand on augmente les impôts, c'est souvent le peuple qui les vote.
Ouais.
Comme ça, il les accepte. Ou alors, il ne les vote pas.
Ouais.
Quand il s'agit de faire passer l'initiative Main d'air en Suisse,
cette
initiative venant d'un patron et proposant d'autoréguler les salaires, il y a malheureusement une organisation patronale qui va prendre la main dans le sac à embaucher des armées d'étudiants pour alimenter les blogs contre l'initiative Main d'air. C'était pas très malin. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le lobby quand même.
Ce qui est très drôle, effectivement, c'est que ça vient d'un petit patron, j'ai bien compris, les patrons de PME, j'ai compris, voilà. Il n'est pas vraiment un anti-libéral, hein. Il fait partie d'un parti politique assez libéral, j'ai bien compris. Donc c'est un peu curieux, finalement, comme démarche. Ça nous semble, à nous, un peu étrange.
Il faut aller tout au bout du calcul, quand même, parce que l'initiative en question se bat contre les rémunérations salariales des patrons.
Oui.
Venant d'un entrepreneur et actionnaire, il a deux façons de se rémunérer, le salariat et les dividendes.
Oui. Ah, vous voulez dire qu'il y a un peu une arnaque aussi derrière ?
Non, mais il faut regarder le modèle dans son ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la Suisse reste libérale, donc que des salaires soient trop élevés, vraiment de façon indécente par rapport au reste du personnel, ça peut choquer. Par contre, qu'on s'enrichisse par son activité économique, ça ne choque pas en Suisse.
Ouais. Mais l'argent
n'est pas sale.
Dans l'initiative, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait toucher surtout ce qu'on appelle les parachutes dorés, etc. Les primes, mais c'est pas tellement pour le reste. Les salaires seront renvoyés au conseil d'administration. À la limite, il peut voter les salaires qu'il veut, d'une certaine manière. J'ai compris ça.
Exactement. C'était essentiellement une limitation à son nombre d'excès, qui était d'ailleurs assez peu pratiquée. Il y a quelques exemples médiatiques du contraire, mais c'était pas la règle.
Ça n'a pas empêché notre ministre, notre Premier ministre en France, d'ailleurs c'est une excellente initiative qu'il fallait importer en France, il l'a dit, mais oui. Alors, peut-être toujours, on évoque ces questions de modèle, il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est la formation professionnelle. Alors ça, c'est un gros morceau, parce qu'il me semble, quand on regarde les chiffres, notamment du chômage, notamment des plus jeunes, qu'il y a quand même forcément un lien, d'une certaine façon. Il y a un système, semble-t-il, dual, comme on dit, qui fait que après l'école obligatoire, on rentre dans un système pour beaucoup de jeunes, qui est un système à la fois de formation en entreprise, et en même temps on continue les écoles professionnelles. Et apparemment, j'ai bien compris, quand on sort de ce type de système, en gros, tout le monde trouve à peu près un emploi.
En gros, oui.
Oui,
on s'inspire beaucoup du modèle allemand de l'apprentissage,
oui,
bien sûr.
Mais quelle est la différence, justement ?
Ben, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'on a, c'est que les gens sortent avec un métier. La notion d'OS existe très peu en Suisse.
Oui.
Les mauvaises langues vous diront qu'on les importe de l'étranger, nos OS. Mais le système suisse forme assez peu de ce qu'on appelle l'OS, qui malheureusement en France est justement un ouvrier non spécialisé.
Oui, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit.
Ça a un avantage, c'est que les gens sortent avec un métier. Ça a un inconvénient qui s'était beaucoup vu dans le système hollandais cette fois-ci, c'est que ça laisse aussi un tout petit peu la main au patronat pour choisir les quotas dans les filières. C'est-à-dire que le patronat peut dire, moi j'ai besoin de tant de gens pour ce métier, tant de gens pour ce métier-là, et les études supérieures, j'en ai besoin de beaucoup
moins, donc
on va m'en faire pas trop. Donc si vous voulez, c'est dangereux quand même aussi pour le modèle universitaire, qui est un peu sous contrôle de l'économie. Et vous savez comme moi qu'un universitaire qui a envie de faire une recherche dans un domaine sans aucune conséquence économique a horreur de se faire rattraper par l'économie.
Ouais.
Donc, ça se limite. Alors, on se rattrape sur les grandes écoles.
Ouais.
Grandes écoles, enfin, je prends le terme français, puisque le terme de grandes écoles n'existe pas tellement en Suisse. Mais école d'ingénieurs, le Polytechnicum de Zurich, qui par ailleurs est la seule école européenne correctement classée à Shanghai, et qui est complètement intégrée dans l'université. J'ai eu l'occasion de publier il y a quelques temps une interview de Philippe Gillet, le numéro 2 de l'EPFL, qui était juste avant directeur de cabinet de Valérie Pécresse, en Suisse, il revit le combat université-grandes écoles. On n'imagine même pas que ça existe.
D'accord.
Le PFL s'est installé sur le campus de l'université de Lausanne, par exemple, et a directement récupéré le département de mathématiques et le département de physique. Ouais. Et les étudiants en maths ou en physique de l'université de Lausanne font leurs études à l'EPFL, même s'ils n'en sont pas diplômés plus tard. Il n'y a pas ce combat et cette sélection qu'on connaît en France.
Le résultat de tout ça, c'est que quand même, quand on regarde les chiffres, je reviens à mes chiffres, on n'a pas ce chômage des jeunes massif comme en France. Bon, même si je ne suis pas trop d'accord avec entre 16 et 24 ans, les 25%, je ne suis pas sûr que ce soit un chiffre très, très, très clair pour le CDE, mais là, on a quand même un chômage des jeunes qui est quand même extrêmement faible. Alors après, il y a tout le problème que vous évoquiez, mais en tout cas, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Il existe, il est beaucoup
très peu
réduit, et effectivement, on voit beaucoup. Il suffit de se promener dans un magasin ou dans une entreprise de service quelconque, on va voir toute une quantité de jeunes en apprentissage.
Ouais.
On fait un apprentissage de commerce.
Ouais.
Vendeur en papeterie, vendeuse en alimentaire ou en vêtements, c'est plusieurs années d'apprentissage dans l'entreprise.
Ouais.
Et on y va et on apprend. Et ça veut dire qu'on en sortira avec un CFC, un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce.
D'accord.
C'est ce qui existait il y a 40 ou 50 ans en France.
D'accord.
Une école de commerce, c'était pas une grande école de commerce. On faisait l'école de commerce aussi, mais ça a disparu.
Ouais. Donc c'est quand même un modèle de ce côté-là, enfin entre guillemets encore une fois, qui fonctionne d'une certaine manière.
Il fonctionne du point de vue chômage, il est considéré par la Suisse comme fonctionnant mal parce qu'il ne forme pas assez de formation supérieure. On est obligé d'importer des quantités de gens de formation supérieure. Les écoles polytechniques sont critiquées en Suisse parce qu'elles ne fabriquent pas assez d'ingénieurs pour le besoin local de la Suisse.
Elles ne fabriquent pas pourquoi ? Parce que les Suisses ne se destinent pas à ça, les jeunes Suisses ? C'est ça que c'est une question ? Parce qu'en France, on voit bien qu'il y a un problème, notamment sur les métiers techniques, mais
Les études supérieures sont beaucoup moins valorisées qu'en France. On n'a pas ce modèle où tout le monde cherche à faire des supérieures. En Suisse, on considère que quelqu'un qui sort avec une formation professionnelle diplômante est quelqu'un qu'on a mis sur le marché du travail.
D'accord.
Donc on n'a pas cette obsession, on reparlera de banque tout à l'heure,
mais il y a
30 ans dans la banque en France, il fallait le bac, maintenant il faut bac plus 2 ou bac plus 3 pour retourner l'échec et mettre un tampon derrière au guichet.
Ouais.
On ne connaît pas ça en Suisse.
Très bien, une deuxième petite pause, toujours avec Michel Buller, nous lui rendons hommage. Ça s'appelle « C'est la montagne ».
Combien de jours usés, jetés à la poubelle, combien de nuits brûlées dans le triste et le gris, avant de perdre mon nom, de faire couper les ailes, j'ai repris le chemin qui ramène au pays. C'est la fin de la plaine, le bout de l'autoroute, tu t'enfonces au milieu d'une gorge fermée, et c'est l'ombre et le froid, l'arbre qui s'arc-boute avant que s'ouvre la vallée. Village à pas bouger, accroché à la pente, avec sa petite école et les maisons de bois, les balcons tout fleuris, la chapelle patiente, et dessus le grand soleil qui réchauffe les toits. Entre les granges à foin, suis monté la ruelle. Y a-t-il quelqu'un par là qui se souvient de moi? La Fernand qui s'arrête, Henri qui m'interpelle. Alors comme ça, te revoilà. C'est loin des villes et loin de tout. C'est la montagne et c'est chez nous. C'est difficile et l'on s'en fout. Les glaciers sont en haut et ça depuis toujours. Et les torrents qui grondent, les pics et les rochers. Et les gens sont pareils à tout ce qui les entoure, durs et prêts à se battre, aussi bien qu'à chanter. Suis allé saluer mes deux vieilles voisines, toujours aussi vaillantes, à peine plus courbées, à croire que dans la pénombre de leur cuisine, le temps coule, mais qu'à moitié. Paraît que l'été dernier sont venus quelques touristes, qu'ont regardé partout, qu'ont pris quelques photos. À la première neige, la femme du garagiste a suivi son amour, un maçon de Porto. Les vieux ont soupiré dans leur ancien langage, zoncé les épaules, encore une qui s'en va. Mais il en faut bien plus pour faire perdre courage aux quelques fous qui restent là. C'est loin des villes et loin de tout. C'est la montagne et c'est chez nous. C'est difficile et l'on s'en fout. J'ai retrouvé Willy au café sur la place, bien content d'avoir passé encore un hiver. Ça n'est guère pour mon âge, la tempête et la glace. N'en parlons plus, Germaine, apporte un autre verre. La Norbert et Marianne, Pierre derrière sa moustache. Et François et Michel qui raclent ses souliers. Et comment vont les champs, et comment vont les vaches. Et les jardins, et les chantiers. Contre la fenêtre est venue se poser la nuit noire. Et l'on parlait encore de chamois, de braconne. Quand Marianne a sorti du fond de notre mémoire une chanson que j'avais oubliée depuis 30 automnes. Alors je me suis dit que la vie était belle. J'avais retrouvé mes ailes, j'avais retrouvé mon nom. Sous la lune immobile, suis remonté la ruelle. Avec plein de lumière dans mon front. C'est loin des villes et loin de tout.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors aujourd'hui, toujours avec Philippe Allion, je rappelle qu'il est rédacteur en chef du bimestriel Suisse Magazine, je crois que je prononce bien, voilà. Et on va maintenant évoquer, bien sûr, on ne peut pas parler de la Suisse sans parler des banques, du secteur de la finance, mais on va le prendre sous un autre angle. On va pas le prendre sous un angle purement moral ou éthique, quoique, on va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que décidément, il y a toute une série d'informations qui nous parviennent, j'allais dire, presque heure par heure. Et alors, il y a notamment quelque chose qu'il va falloir que vous nous expliquiez, c'est l'espèce de, comment dirais-je, d'affrontement suisse-suisse, je sais pas si j'ose dire comme ça, au Parlement suisse, sur les rapports avec les États-Unis. Et là, il y a eu, depuis une quinzaine de jours, un affrontement un peu curieux. On a même vu les socialistes suisses critiquer la présidence de la Confédération en disant qu'elle bradait la souveraineté de la Suisse. Alors, tout ça est assez étrange.
Oui, alors la Suisse passe pour ne pas bien réagir sous pression et ne pas bien réagir dans l'urgence. Je crois qu'on en a une malheureuse démonstration.
Ouais.
Effectivement, on traîne depuis quelques années des très mauvais dossiers où une des plus grandes banques suisses a dysfonctionné aux États-Unis. Ou je veux dire plus précisément, où une des plus grandes banques suisses s'est fait prendre en dysfonctionnement aux États-Unis. On craint qu'il y en ait d'autres derrière.
D'accord.
Et donc les États-Unis ont mis une pression extrêmement forte, et c'est un marché intéressant pour la banque suisse.
Ouais.
Et donc le gouvernement suisse a essayé de façon pragmatique, mais pas très astucieuse, de dire, bon, il faut faire une loi de balayage, et on va essayer de faire quelque chose qui règle le passé, parce qu'on s'enfonce dans un mauvais dossier.
Ouais.
Et malheureusement, ils ont été peut-être trop loin, ou trop maladroitement. Et en Suisse, on a une vieille tradition de ne pas aimer se faire imposer les textes par l'extérieur. On en a parlé tout à l'heure.
Oui, absolument.
Et vous savez qu'on a dans notre pacte fondateur, nous n'accepterons aucun juge qui ait acheté sa charge ou qui soit nommé par l'étranger.
Ouais.
Et là, on a eu un peu l'impression qu'on recevait un texte mal traduit de l'anglais par les services d'Evelyn Wiedmer-Schlumpf et qui passait au Parlement directement en traduction américaine.
Alors, justement là-dessus, il semblerait qu'elle ait fait une erreur, si j'ose dire, dans la mesure où d'un seul coup, elle a dit « Maintenant, vous n'avez plus qu'à voter, en quelque sorte. » Moi, j'ai lu ça un peu dans la presse française. C'est peut-être un peu excessif, mais...
C'est ce que dit la France, mais je crois qu'il faut bien connaître le système de fonctionnement suisse.
Ouais.
Le gouvernement a un pouvoir extrêmement limité.
Ouais.
Quand il fait quelque chose, il faut qu'il le fasse ratifier par le Parlement, et si par hasard le Parlement le vote, il faut le faire ratifier par le peuple.
Ouais.
C'est ce qui a pratiquement mis fin aux négociations Suisse-Europe pendant un certain temps,
ouais.
Quand l'Europe a fini par comprendre que même quand le gouvernement est de bonne volonté et qu'il dit oui, il n'engage que lui-même et encore.
Mm-hmm.
C'est un peu ce qui s'est passé. Donc Evelyn Schlumpf, elle est là pour essayer de négocier quelque chose.
Ouais.
Elle a effectivement peut-être un peu cédé et elle présente ce qui lui apparaît être le maximum acceptable par ses interlocuteurs.
Ouais.
Et derrière elle, le peuple suisse, enfin, le peuple ne s'est pas encore prononcé, mais le Parlement lui dit non. Non, non, c'est pas.
Alors on en est où justement pas... Il a dit non.
Alors ce matin, alors,
voilà,
à 10h ou 11h, par de mémoire 130 voix contre 60, donc une oui. raclée en bonne et due forme, le Parlement. Donc la chambre basse du Parlement, le Conseil national,
ouais.
a refusé d'entrer en matière sur la Lex USA en disant ce texte est ni fait ni à faire, c'est une loi d'urgence, nous n'aimons pas les lois d'urgence,
ouais.
Nous ne savons pas où elle va, elle protège Il y a quand même eu une partie du Parlement pour dire elle protège les fraudeurs, mais met en porte-à-faux les employés des banques suisses. Oui. Les employés des banques suisses sont à la merci d'une arrestation aujourd'hui sur le territoire américain. Donc, non, reprenez ça, allez un peu réfléchir et on verra plus tard.
Alors, il va se passer quoi maintenant, justement?
Alors, le texte repart au Conseil des États, donc à la Chambre haute, qui va réfléchir sur le sujet. On est en plus en plein changement, puisque le négociateur central, Max Hambühl, a annoncé qu'il quittait son poste. Il était de notoriété publique, il ne s'en avait pas très bien avec sa ministre de tutelle. Ouais. Donc là, c'est un peu le brouillard. On ne sait pas bien ce qui va en sortir. Mais ce qui est sûr d'un point de vue suisse, c'est qu'un truc comme ça ne pouvait pas passer dans l'urgence. Ce n'est pas possible.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, comme ça commence à chuchoter aussi dans la presse, bon, quelque part, le fameux secret bancaire, il faut dire quelques mots là-dessus pour savoir ce que c'est exactement, parce que ce n'est pas toujours forcément ce que l'on dit. Voilà. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une sorte d'effondrement ou de remise en cause, dans le fond, dans une interview que vous avez faite dans votre journal, il y a un fiscaliste qui dit, dans le fond, le secret bancaire, il est cliniquement mort, d'une certaine façon, à terme.
C'est ce que dit l'excellent Philippe Canel, qui effectivement travaille à la fois à Puy, mais aussi à Bruxelles. Donc, voilà. le secret bancaire, bon, l'historique est bien connu, c'est la protection de la sphère privée, on y tient, et il s'applique encore, y compris en Suisse. Ça n'est pas uniquement une disposition à but fiscal. Ouais. On considère que la mise en place de recoupement, de fichiers, de tout savoir n'est pas de bonne politique. Ouais. Ça a été employé de façon absolument odieuse, ça a servi, on le sait bien, et Michel Buller l'a chanté sur tous les tons, à protéger toutes sortes d'argent de dictateurs pas très honorables, en n'oubliant pas qu'on fonctionne bien comme un assureur. On accepte l'argent quand il arrive, mais on est très très regardant quand il s'agit de le rendre pour voir si par hasard la personne mérite qu'on lui rende. D'accord. Et c'est arrivé plus d'une fois qu'on ne le rende pas. C'était une façon comme une autre de calmer les dictateurs.
Ah mais d'accord. On vous le rend pas, tout simplement.
On le rend pas.
Ah bon.
On discute de qui le rendre.
D'accord.
Petite anecdote, mais l'argent du FLN a été en Suisse pendant très longtemps.
J'allais évoquer cette question, justement.
Et pour le récupérer, ça a pris 30 ou 40 ans. Ouais. Parce que la Suisse voulait qu'on lui prouve que le régime algérien était bien l'héritier du FLN. Et en fait, la Suisse a un jour dit oui. Ouais. Au grand étonnement de l'Algérie, c'est à ce moment-là que l'Algérie s'est rendue compte que par un jeu de participation, elle avait déjà racheté la banque en question.
D'accord.
Donc on lui rendait en fait quelque chose qu'elle avait déjà racheté.
Oui, parce que le trésor FLN était bien dans une banque suisse, tout ce qu'on disait à Paris au moment de la guerre d'Algérie. Voilà.
Alors ce secret bancaire a aussi servi. Il ne faut pas confondre banque suisse et banque en Suisse. Ouais. Le secteur bancaire en Suisse n'est pas forcément aux mains de Suisse. Il y a énormément de filiales d'établissements étrangers, dont français, qui s'accommodent très très bien de leur présence en Suisse.
Ouais.
Quand Paribas Suisse, j'y travaillais à l'époque, s'est installé en Suisse, s'est installé dans une place sur laquelle Paribas a financé pour très cher une statue de Camoletti. Ouais. Ce qui a permis d'appeler la place Camoletti. Ouais. Elle s'appelait avant la place de la Blanchisserie, ça déplaisait à la banque en question. Donc voilà, ça a aussi beaucoup d'établissements, qui se sont... quand on a essayé de passer des lois de régulation, toujours pareil avec une tradition protestante, en disant « faites attention à ce que vous faites », ça n'a jamais empêché un certain nombre d'intervenants suisses ou étrangers, mais souvent étrangers, d'aller faire n'importe quoi en profitant de cette liberté. Ouais. Donc on l'a régulé, on le régule de plus en plus, on a passé les conventions de diligence, on a passé les formulaires A, on a passé les obligations, on a passé la séparation de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, et on continue à restreindre le système. Mais quand en fin d'année dernière, il a été question de passer un texte obligeant les banques à un certain nombre de diligences, les banques ont réagi, ont dit non, on va faire de l'autorégulation, on est sous un régime d'autorégulation.
Alors, il y a une petite anecdote, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui peut nous paraître un peu amusante en France, c'est que la Suisse a essayé de se défendre en disant à ceux qui l'attaquaient dans ce domaine, on va pratiquer nous-mêmes le prélèvement à la source. Je veux dire, ça va assez faciliter, c'est-à-dire, en gros, on va prélever pour vous par rapport à des avoirs non déclarés, un trouble, quelque chose qui va vous être reversé, mais dans le fond, on gardera notre souveraineté. Hein. Alors ça, c'est quand même assez étrange, je veux dire. Ça n'a pas marché, apparemment, pas très bien.
Ça n'a pas très bien marché, c'était pas arrivé au moment. C'était assez pragmatique, comme souvent ce qui sort de Suisse.
Oui.
La concurrence sur le secret bancaire, elle n'est pas politique, elle est économique, c'est un secret secret de Polichinelle. Ouais. Les principaux détracteurs du secret bancaire suisse sont des pays de droit anglo-saxon qui pratiquent allègrement le trust et toute autre forme d'anonymat.
D'accord.
Donc, faut déjà pas mettre la morale ou la politique là où on est purement sur l'économique.
Oui.
Donc, la Suisse a fait cette analyse en disant, bon, effectivement, nous gagnons pas mal d'argent là-dessus, ouais, et nous permettons à des contribuables de ces pays d'échapper à l'impôt.
Voilà. Ouais, ouais.
Donc, on va trier les choses et ouais, on va prélever l'impôt et leur restituer, mais laisser l'anonymat. C'était assez pragmatique.
C'était
assez intelligent.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, ça a été signé avec l'Angleterre, qui très pragmatiquement a récupéré, je ne sais plus, quelques dizaines ouais, de milliards cette façon-là.
Très bien.
Ça a été considéré comme très cher. Il faut savoir que pour les investisseurs, pour certains, ça voulait dire 40 à 50% de prélèvement sur leurs avoirs.
Ouais.
Faut pas croire que c'était forcément un cadeau. Ouais. Mais l'Angleterre a dit, ben voilà de l'argent qui rentre, ouais, pourquoi pas, ouais, au même titre que l'Italie signe régulièrement des lois d'amnistie
fiscale,
où on voit ouais, l'argent ressortir pour quelques mois de Suisse avant d'y revenir dans les mois qui viennent. L'Allemagne l'avait accepté, mais c'est son Parlement qui l'a refusé. Et alors la France s'est drapée dans une position
oui, j'ai vu ça, oui,
purement de principe, c'est hors de question, etc. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas. Enfin, ça a été la position officielle. Les positions officieuses que j'ai eu le plaisir de voir passer étaient beaucoup moins tranchées.
Ah, pour l'instant, on en est là. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça ne s'applique pas, apparemment.
Pour l'instant, on en est là, sachant que
oui,
si vous comptez le nombre de fermetures annoncées de la cellule de régulation fiscale de Bercy,
ouais,
c'est quand même une cellule qui a dû fermer 5 fois, ouvrir une seule fois, tout de même.
Ouais.
Donc, il y a dû y avoir des ouvertures qu'on n'a pas bien vues passer. Aujourd'hui, elle est effectivement fermée,
ouais,
mais il y a quelques mois, elle fonctionnait encore.
Alors, il y a un deuxième ébranlement. On vient de parler du secret bancaire, qui, quand même, apparemment, bon, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a un deuxième ébranlement. On va terminer l'émission là-dessus, parce qu'hélas, il nous reste peu de temps. C'est quand même l'attractivité fiscale hors du système bancaire. Là, il y a beaucoup de discussions, la presse française est pleine véritablement d'analyses de ces riches français ou autres, qui riches français pour nous, qui vont là-bas, comparaison avec la Belgique, etc. Et il semblerait que, on cite des noms toute la journée, les grands tennismen français, etc. Il semblerait que là aussi, il y a un changement assez important, parce que le fameux forfait fiscal, eh bien, bon, il semblerait que là aussi, ils battent un peu de l'aile. C'est pas terminé, mais bon, c'est pas très clair.
Alors, le forfait qui, je le rappelle, consiste à
oui,
accorder une imposition forfaitaire sur la dépense à des gens qui n'ont pas d'activité économique en Suisse.
Il faut pas avoir d'activité
économique. Il faut pas avoir d'activité économique.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est en gros tout bonus. C'est un petit peu ce que faisait un département français avec les immatriculations, c'était
d'accord,
le 51, si je me souviens bien. Ce forfait a été régulièrement réévalué. La France avait imposé à l'époque que le forfait soit majoré pour accepter qu'il soit déductible des impôts français.
Ouais.
Et puis, effectivement, on est en train de négocier en montant les seuils, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup moins d'effet d'aubaine, mais pratiquement, ça va arriver à quoi? Ça va arriver au fait qu'avec une très grosse fortune, on pourra toujours avoir accès à un forfait, et c'est seulement des gens moins fortunés qui n'y auront plus accès.
Ouais.
Mais ça n'empêche pas une autre mode qui se fait beaucoup jour actuellement, et qui va poser un vrai problème à la France, c'est l'expatriation pure et simple. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui vend son entreprise aujourd'hui et qui s'installe sur les bords du Léman ou du lac de Zurich ou du lac de Zug, parce que Zug est aussi très prisé là-dessus,
ouais,
on ne peut pas l'empêcher. Et ça, la France ne se rend pas suffisamment compte qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'expatrier. Alors, moins médiatiquement que certains l'ont fait ces derniers temps, mais c'est un vrai mouvement.
Mais par rapport à... vous faites une comparaison dans votre journal à un moment donné, par rapport à la Belgique, parce que il semble que les gens hésitent entre la Belgique et la Suisse dans certains nombres de cas. Alors, je ne veux pas donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas s'ils veulent s'expatrier, mais il semblerait qu'il y a quelques différences quand même.
Alors, il faut savoir que la Suisse n'est pas du tout un paradis fiscal. Hein. L'expatriation peut être relativement chère
ouais,
et que pour les gens qu'on a l'occasion de conseiller sur le sujet, on leur dit toujours de faire bien attention aux aspects vie quotidienne. Parce que certes, il y a un calcul fiscal, mais
oui,
il y a surtout souscrire ou pas à un modèle de société, à un modèle de vie.
Ouais.
Et on a un septuagénaire récent qui a montré allègrement qu'en s'installant à Gstaad, il s'ennuyait copieusement. Il préférait visiblement la côte ouest des États-Unis. Donc c'est pas une bonne façon de s'expatrier.
Vous évoquez cette Johnny Hallyday.
Oui,
disons le nom. Oui, mais enfin lui, il y allait à un moment donné pour des raisons fiscales, purement simplement, non? Non. Parce qu'apparemment, il était bien dans le forfait, puisqu'il
si je me souviens bien, il a tenté de se faire belge pour profiter de l'impôt belge. N'y arrivant pas, il s'est fait résident gstaadois, le tout en habitant à Los Angeles. Donc, c'est un dossier un peu curieux. On a expulsé Noah en son temps.
Hein.
Oui. Noah qui était un faux
oui,
résident. Noah qui avait présidence fiscale en Suisse, mais
ouais,
qui n'a pas respecté les obligations qu'il avait prises vis-à-vis de l'État suisse.
Ouais,
de créer, l'État de Vaud, si je me souviens bien d'ailleurs.
Ouais.
De créer du travail sur place et d'être réellement résident. Il s'est fait expulser, hein.
C'est-à-dire, vous voulez dire expulsé, c'est-à-dire...
Bah, on lui a dit, vous n'êtes plus résident, vous n'êtes plus au bénéfice du forfait.
Ah oui, d'accord. Alors, votre Philippe Quesnel, que vous avez interviewé dans le journal, on peut peut-être terminer là-dessus, il dit, de toute façon, la Suisse va peut-être perdre son... au niveau forfait fiscal, parce que trop de forfaits tuent le forfait, finalement. Ils sont peut-être allés trop loin, certains cantons, d'une certaine manière, en attirant peut-être une clientèle particulière.
Tout à fait, et on, dit, on parle de la concurrence Suisse-France, voilà. Mais on oublie de parler de la concurrence Zug contre Vaud, Zug contre Zurich, Vaud contre Genève, Valais contre... qui n'a pas d'impôt sur les successions contre Vaud, etc. Ouais. Donc oui, bien sûr, il y a eu beaucoup d'excès de concurrence, ouais. Et Philippe Quesnel a parfaitement raison de dire qu'il va falloir réguler tout ça, et il a d'ailleurs publié quelques ouvrages intéressants sur le sujet.
Et les successions, alors on va terminer là-dessus, c'est pareil, il semble que ce soit terminé d'une certaine façon, il y a eu un coup de force apparemment français, si j'ai bien compris, récemment, et là, il semble, c'est pareil.
Oui, c'est un mauvais coup de la France qui a oublié tout l'usage diplomatique en dénonçant unilatéralement un accord, mais c'est en train d'être négocié, on a bon espoir qu'on y revienne dans les mois qui viennent.
Alors, Philippe Allium, c'est malheureusement maintenant terminé, on aurait pu parler longuement encore de la Suisse. Une petite dernière question, votre journal, où peut-on se le procurer, Suisse Magazine? C'est par abonnement uniquement, je suppose?
Que par abonnement ou sur Internet, sur www.suissemagazine.com, sur lequel on peut le commander. Il y a 800 numéros en ligne, donc on peut les renvoyer un par un.
Et ça paraît tous les deux ou trois mois, c'est
ça? Tous les deux mois.
Tous les deux mois. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer cette question du modèle suisse. Y en a-t-il un ou non? Ben, je crois que ceux qui nous ont écoutés se seront fait une petite idée. Ils ont leur réponse. Merci à tous. À très bientôt sur notre antenne.